le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue dans le service protestant. En ce 1er novembre, nous recevons aujourd'hui Katharina Schechel, pasteur de l'Église protestante unie de France et responsable du service de formation Théovie, à découvrir sur Internet. Et c'est une réflexion sur la mort et le deuil qu'elle nous propose ce matin.
Vous êtes les bienvenus ce matin. Bienvenue, vous qui avez allumé la radio en attente de la messe de 10h. Bienvenue, vous dansez l'habitude d'écouter la radio en prenant votre petit déjeuner. Bienvenue, vous aussi, qui savez que c'est l'émission du service protestant, bien que ce ne soit pas un dimanche matin. Oui, c'est un jour férié, en plein milieu de la semaine. Un jour férié dans le calendrier, qui donne du temps en plus. Du temps libre pour autre chose que le travail, du temps libre pour soi, peut-être aussi pour réfléchir à ce que représente ce jour et les habitudes qui y sont liées. Au fait, avez-vous acheté des chrysanthèmes ? Le jour de la Toussaint, c'est depuis des siècles dans le calendrier des fêtes religieuses catholiques, le jour où l'on fête tous les saints, ce qui a donné Toussaint. Tous les saints qui n'ont pas de jour particulier, puisqu'il n'y en a que 365 jours dans l'année, mais bien plus de saints à fêter. Pour une oreille protestante, cela peut paraître bizarre, cette histoire de fête de saints. Et pourquoi alors on va au cimetière ? C'est que le jour après la Toussaint, celui-ci n'est plus férié, c'est le jour des défunts. Mais voilà que les deux fêtes tendent à se superposer. Et pourquoi des chrysanthèmes ? C'est que Raymond Poincaré, président de la République française pendant la Première Guerre mondiale, ordonne en 1919 d'embellir, le 11 novembre, tous les monuments aux morts de la République. Le chrysanthème fleurit à ce moment-là, c'est alors cette fleur qui est choisie. Petit à petit, le fleurissement des monuments aux morts se déplace vers les tombes individuelles au cimetière. Voilà pour l'histoire. Du coup, le jour de la Toussaint rime avec souvenir, avec cimetière, avec deuil, avec mort, avec mémoire. La mort, bien souvent occultée dans nos sociétés occidentales, arrive ainsi jusque dans des endroits très improbables. Dans les supermarchés de nos villes et villages, à travers les pots de fleurs qui y sont proposés à la vente. Un rite, vous me direz, une habitude. Oui, on l'accomplit sans forcément se demander pourquoi. Après tout, d'autres le font aussi, ou on l'a toujours fait. Je vous propose ce matin, en partant d'un texte biblique étonnant, de réfléchir à ces rites de mémoire et de souvenir autour de la mort, autour des morts, qui accompagne notre vie, personnelle et communautaire, et bien souvent à notre insu. Je vous propose d'entendre une histoire lointaine qui nous est racontée dans le premier livre de la Bible, la Genèse, au chapitre 11, à partir du verset 26. Attention, accrochez-vous, car il y aura beaucoup de noms, de liens de parenté, oui, une sorte d'arbre généalogique avec des bizarreries toutefois, que nous allons reprendre par la suite. Écoutez, Terach, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nahor et Haran. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abram, Nahor et Haran. Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abram et Nahor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Sarai, Et le nom de la femme de Nahor était Milca, fille d'Aran, père de Milca et père de Jiska. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Terah prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ouran Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Haran et ils demeurèrent là. Les jours de Terah furent de 205 ans et Terah mourut à Haran. Fin de l'histoire. Vous avez tout saisi? Non? Je récapitule. Donc, il y a un père. Il s'appelle Terah. Il a trois fils, Abraham, Nahor et Haran. On ne dit rien de leur mère. Bon. Haran, le petit dernier de Terah, a aussi un fils, Lot, et aussi deux filles, Milca et Jiska. Haran meurt et ses deux autres frères se marient, Abraham avec Sarai et Nahor avec Milca, qui est donc sa nièce. Voilà la famille dont on nous raconte l'histoire. Ou plus exactement, on constate ce qui se passe dans cette famille, un peu de l'extérieur, sans que les membres de la famille expriment eux-mêmes leurs sentiments. Ils s'expriment en fait à travers ce qu'ils font. J'ai choisi ce récit de famille parce que cette famille est marquée par la mort d'un de ses membres, Haran. Cette histoire nous permettra ainsi de revisiter notre propre relation à la mort, à la vie. Il me semble en effet que la généalogie de cette famille, avec tous ces noms qui se suivent, tourne autour d'une mort qui pèse de tout son poids en son milieu. Nous allons voir cela en détail. Vous êtes prêts? Allons-y alors. Terah le père a trois fils, Abraham, Nahor et Haran. Mais le dernier, Haran, meurt en présence, littéralement, en face de Terah. L'horreur absolue. Le fils meurt alors que son père est encore en vie. Voilà que le temps n'est pas respecté. La chronologie des choses est inversée. Le verset insiste. Il meurt trop tôt et il meurt au pays de sa naissance. C'est-à-dire qu'il fait du surplace et il le fait trop vite. Sa naissance et sa mort sont racontées en deux versets qui se suivent comme si c'était pour dire il n'avait vraiment pas le temps pour vivre. Et pourtant, nous apprenons qu'il a eu le temps d'engendrer un fils, Lot. Il a eu un peu de temps tout de même pour vivre. Ce n'est donc pas un petit enfant qui est mort. Et pourtant, il est mort trop tôt. Le père, Terah, a dû se dire comme beaucoup de pères et de mères qui perdent un enfant, même adulte, « J'aurais dû partir à sa place. Pourquoi lui plutôt que moi ?» Mais quand quelqu'un meurt, n'est-ce pas souvent trop tôt? Toutefois, en apparence, et l'apparence compte beaucoup dans ces histoires de vie et de mort, cette mort prématurée ne trouble pas plus que cela l'histoire. Le récit reste très sobre. On ne nous dit même pas comment on a organisé ses funérailles, alors que les funérailles, c'est important dans la Bible. Rien non plus du deuil du père, rien du deuil des frères, Abraham et Nahor. Personne ne dit jamais rien de ce qu'il ressent dans ce récit. Le verset qui vient juste après nous avoir appris la mort de Haran nous raconte laconiquement que ses frères, Abraham et Nahor, se marient. Eh bien, comme si la mort de ce frère, de ce fils, importait peu. Ainsi va la vie. Ou bien, mais le résultat est le même, comme si cette mort était tellement impossible à envisager qu'il fallait vite passer à autre chose. Ne plus en parler, ne plus l'évoquer, faire comme si de rien n'était. Et pourtant, nous le savons bien par expérience, ce que l'on tait revient bien vite, par d'autres chemins, au détour d'une parole, en troublant une nouvelle relation, en rendant inimaginable une vie heureuse après ce deuil. Dans le texte biblique, vous l'avez entendu, le nom de Haran revient encore au moment où les autres font la fête. Ce n'est pas rien. Le mort, oui, c'est un trouble fait, pour sûr. Et le lecteur apprend que Haran n'est pas seulement père de Lot, comme l'affirme le début du récit, mais aussi de deux filles, de Milka et de Jiska. Et c'est bien avec Milka, fille de Haran, que Nahor se marie. Haran s'invite en quelque sorte à la fête du mariage de sa fille, qui épouse son oncle. Un mariage à partir d'une mort et d'un double deuil. Le mort est à la fois le frère du mari et le père de la femme. Vous pensiez que les familles aujourd'hui, ce n'est plus ce que c'était ? Si vous ouvrez la Bible, vous découvrirez que la famille, ça a été compliqué depuis toujours. Et non seulement les relations entre les membres vivants d'une même famille sont difficiles, mais celles entre les vivants et les morts d'une famille le sont tout autant, sinon plus. Le frère défunt, ce décès prématuré, mentionné pourtant comme en passant dans le récit biblique, devient omniprésent par la suite. Voilà ce qui arrive aussi dans nos vies. Que les morts prennent plus de place que les vivants. Ou bien, car c'est plus compliqué que cela, que les vivants ne savent pas trop quelle juste place donner aux morts. Notamment quand il s'agit de décès inattendus qui laissent désemparés. Mort d'enfant, suicide, accident. Mais pas seulement car il n'existe pas de mort simple. Devant n'importe quelle mort, ce sont les grandes questions qui surgissent. Le sens de la vie, le sens de ma vie, quel sens peut-elle bien avoir si de toutes les façons la mort l'emporte? Quel sens peut-elle encore avoir alors que le sens était lié à celui ou celle qui vient de mourir? Ma vie peut-elle avoir du sens alors que l'autre était mon sens de vivre? Ce sont des questions que chaque décès, d'une manière ou d'une autre, ravive. Et quelle réponse peut-on donner sans courir le risque que ces réponses sonnent creux, qu'elles soient superficielles ou convenues, notamment quand le décès n'intervient pas au terme d'une longue et heureuse vie? On peut se taire, certes, essayer de passer à autre chose, vite tourner le dos au cimetière. Reprendre le quotidien le plus rapidement possible, chercher à oublier. Mais le deuil devient alors impossible. Ou bien on peut être happé par la mort, par le mort. Ne pas pouvoir le laisser au cimetière en quelque sorte. Le garder chez soi, symboliquement ou réellement en retardant le moment de se séparer de l'urne. Car on peut avoir l'impression de l'abandonner, si on ne se met pas à cultiver sa mémoire par tous les moyens, à se plier à ses volontés, à ce qu'il aurait voulu que l'on fasse de sa vie. Oui, on peut essayer de construire sa vie sur la volonté supposée du défunt. Ainsi, on peut se convaincre qu'il n'est pas vraiment mort, que la rupture n'est pas réelle tout à fait, qu'il reste présent et qu'il redevient présent dans la vie de tous les jours. Ainsi, le mort devient parfois, sans que l'on s'en aperçoive, ce qu'il n'a peut-être jamais été, un saint, un père, une mère, une fille, un fils parfait. Parce que comme il est mort, on s'interdit d'en dire autre chose que du bien. Le deuil peut conduire ainsi à mettre le mort au centre de la vie. Parce que la vie sans lui, sans elle, n'a plus d'autre sens à offrir. La plupart du temps, abasourdi par le deuil ou simplement par l'impossibilité de ce deuil, on ne se rend pas bien compte de ce que l'on fait et qu'on engage la vie des vivants, des survivants, dans un tel culte du mort, de la mort. Et dans une société où l'individualisme permet à chacun de faire comme il veut, il n'y a pas beaucoup de repères, de rituels qui aideraient à revenir à la vie malgré la mort et la rupture. La personne en deuil se trouve bien souvent désemparée, car c'est à elle d'inventer alors des rites, des lieux de mémoire, des temps de deuil, oui, des manières de faire face à la rupture, à la douleur, à l'absence de l'autre. La famille d'Abraham semble avoir trouvé deux réponses successives au deuil inexprimé du frère. Deux pistes qui semblent pouvoir l'inscrire à nouveau dans une dynamique de vie, du moins en apparence. Tout d'abord, le mariage des frères, la fête, nous l'avons vu. Mais voilà que ce trop rapide retour à la vie, à la fête, à l'accueil de l'avenir, ne fonctionne pas comme prévu. Le récit mentionne aussitôt une note terriblement discordante. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Alors que l'on voulait se lancer et se relancer dans la vie, oublier ce frère, oublier cette mort, repartir à zéro, l'avenir ne s'ouvre pas. La femme d'Abraham est stérile. Pas d'avenir donc, pas d'enfant. Haran est mort au pays de sa naissance. Là, les enfants que l'on aurait pu espérer ne vont même pas naître. La mort avant même la naissance. Un avenir avorté. Non, décidément, courir en avant, oublier ce qui fait mal, taire la mort, se lancer dans une nouvelle aventure trop vite, sans regarder en arrière, n'apparaît pas comme une solution viable. La famille envisage alors une autre solution. On part. Il faut quitter Ur en Chaldée, cet endroit qui est le pays de la naissance des trois frères, mais qui désormais est marqué, trop marqué par la mort du frère cadet. Oui, partir, sortir de là. On peut entendre ce genre de conseil quand on est en deuil. Allez, il faut que vous sortiez un peu. Il faut que vous vous changiez les idées. Un voyage, tiens, pourquoi pas. Un déménagement, pour ne plus être dans cette maison, dans cet appartement où tout rappelle la personne aimée et disparue. Un nouveau départ. Ce sont des conseils donnés par des amis et des connaissances, parfois avec beaucoup d'affection. Parfois aussi, l'un n'exclut pas l'autre, avec une note d'agacement. Car le deuil de l'autre insupporte, parce qu'on ne sait plus quoi dire au bout d'un moment. Le deuil de l'autre, quand il dure, interroge notre manière de vivre le quotidien, il met mal à l'aise. Et ouvertement, ou plus subtilement, on fait comprendre à la personne endeuillée qu'il faut savoir lâcher, qu'il faut reprendre le cours de la vie. Oui, bien souvent, on a du mal à laisser du temps à l'autre. Plus le deuil dure, plus les proches s'en prennent à conseiller des portes de sortie. Non pas tant pour aider la personne en deuil que pour se protéger eux-mêmes de ce deuil, qui ravivent leur propre deuil, leur propre questionnement irrésolu par rapport à la mort, par rapport à la vie. Oui, somme toute, l'idée de Terach de partir avec tout le monde n'apparaît pas d'emblée comme une trop mauvaise idée. On peut le comprendre. Mais vous l'avez peut-être remarqué, Terach part avec qui au juste? Le texte mentionne trois personnes. Abraham, son fils, Lot, le fils de Haran, le texte ajoute le fils de son fils, si jamais on avait oublié, et puis Sarai, la femme d'Abraham. Qu'en est-il de l'autre frère, de Nahor, et de sa femme à lui, Milka, la fille de Haran? C'est tout de même étrange que ce couple n'ait pas mentionné dans ce départ. Ont-ils décidé de vivre leur deuil autrement, sur place, en couple? Le texte reste silencieux, certes, mais cette absence interroge. Ce couple réapparaît dans le récit bien plus tard, et le lecteur, la lectrice, apprend alors qu'ils ont été bénis d'enfants. De 8 fils, 7 plus 1, comblés d'avenir, si on peut dire. Comment se sont-ils tirés de leur deuil? Le texte ne le dit pas, ou alors seulement entre les lignes. Ils n'ont pas fui le lieu qui rappelle la mort du frère, la mort du père. Ont-ils pris le temps nécessaire pour évoquer ensemble le souvenir du frère, du père? Ont-ils pris le temps de pleurer ensemble? C'est possible. En tout cas, le récit insiste, ils ont retrouvé la vie, un avenir et une espérance. Tandis que le reste de la famille court encore après cet avenir. Mais comment le retrouver? Comment saisir la vie alors que l'avenir semble si bouché? Terach a tout de même un but bien précis. Canaan. Il faut aller en Canaan. Il faut aller de l'avant et ne pas trop regarder en arrière. Oui, sauf que ce projet très volontaire va échouer. Terach et les autres, avec lui, ressemblent un peu au baron de Münchhausen, qui est connu pour ses aventures fantastiques. On raconte qu'il tombe avec son cheval dans un marécage et qu'il réussit à se sortir de là en tirant sur ses propres cheveux. Une manière de dire qu'il a besoin de personne, que d'une volonté de faire pour se sortir soi-même des gouffres de l'existence. Parfois, on cherche à y ressembler. Un peu de volonté, et on arrivera bien à se sortir de là. Oui, sauf que cela ne fonctionne que dans le conte, et que se sortir de là est impossible sans l'aide d'un tiers qui vient au secours. La famille de Terach va faire exactement cette expérience. Ils sont partis vers Canaan, mais ils ne vont finalement pas y arriver. Le texte nous dit « Ils vinrent jusqu'à Charan, ils demeurèrent là ». Vous avez entendu ? Ce lieu où ils choisissent de s'établir rappelle étrangement le nom du fils mort. L'élan volontaire n'a pas suffi. Pire, ils s'établissent dans le lieu même qui rappelle la mort du fils tous les jours. C'est ce qui peut arriver dans la vie. On part, mais on prend tout avec soi. Le changement géographique ne change pas en profondeur les choses. L'élan volontaire vers un nouveau but ne tient pas dans la durée. On s'essouffle, et même si on bouge extérieurement, on reste intérieurement incapable d'accueillir la nouveauté. L'être humain, dans sa fragilité, fragilisé dans sa vie à cause d'un deuil, n'avance pas par coup de résolution ou par coup de conseils donnés qui, en fait, ne prennent pas en compte son état intérieur. Que faire alors ? Pas de sortie ? Obligé, condamné, ou bien à tourner en rond au cimetière, ou bien à courir pour fuir tout ce qui rappelle la mort et la finitude humaine ? Dans la famille de Terach, le récit nous apprend que dans ce lieu qui rappelle le nom de son fils mort, le père va, ce n'est pas vraiment une surprise, mourir lui aussi. Il rejoint son fils, mais sans avoir retrouvé la vie véritable. Comme si ce père n'avait pas pu entendre et suivre d'autres appels que sa propre volonté de fuir, et qui, se révélant insuffisante, le condamne à rester là, où la mémoire de son fils le convoque de manière mortifère. Cela peut en effet arriver, encore aujourd'hui. Mais le récit ne reste pas sur cette seule issue dramatique possible. Il propose autre chose. Écoutez les versets qui suivent immédiatement. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Dans ce passage que je viens de lire, quelqu'un intervient, qui était absent jusque-là, le Seigneur. Il s'adresse à Abraham, il l'interpelle, et Abraham entend, se met debout, prend toutes les personnes qui font partie de sa famille, prend tous ses biens, et il part. C'est tout de même étonnant. Sans discuter, sans douter, sans se demander « c'est qui me parle là ?», sans se dire « peut-être demain, on va voir ». alors on pourra répondre qu'à la voix du Seigneur, nul ne résiste. Mais ce n'est pas vrai. Tant de textes bibliques nous racontent au contraire que le Seigneur parle et parle et parle encore et personne n'entend. Et personne ne met encore moins en pratique. Non, là, il y a visiblement autre chose qui se joue. En fait, qu'est-ce qu'il dit au juste ce Seigneur ? Littéralement, il dit « Va vers toi, hors de ton pays, hors de ta famille. » C'est bizarre comme formulation. Et pourtant, c'est cela qui met debout Abraham et tout son monde avec lui. Et non seulement cela le met debout, mais cela le fait arriver dans ce pays pour lequel sa famille s'était déjà mise en marche, Canaan, mais qu'elle n'avait jamais atteint. Il y a un effet de vie dans cette parole entendue par Abraham. Elle ne dit pas « Bouge-toi, allez, debout, ton deuil dure depuis assez longtemps. » Non, elle invite à ne pas ignorer ce deuil, mais à l'inscrire dans un cheminement de vie. « Va vers toi. » On pourrait traduire « Prends-toi au sérieux dans ce deuil, dans ce désarroi. Regarde de près comment tu y réagis. » Prends au sérieux la culpabilité que cette mort du frère cadet génère en toi. Ne cours pas au loin comme si tu pouvais t'échapper à toi. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi cette promesse. Je ferai. Abraham n'aura pas à compter uniquement sur ses propres forces, comme l'avait essayé son père. Il y a désormais cette parole autre qui l'accompagne et qui l'assure d'un soutien indéfectible. « Je suis là, ne crains pas, » lui dit en somme le Seigneur. Voilà le tiers qui a si cruellement manqué dans cette famille, en proie au deuil. Le tiers qui maintenant décharge Abraham de devoir lui-même réinventer la vie. Le tiers qui lui propose de simplement faire confiance, de lui remettre non seulement son deuil, sa tristesse et son désarroi, mais aussi son frère cadet. C'est pourquoi Abraham peut faire enfin ses valises et quitter Haran, quitter enfin la tombe de Haran sans avoir l'impression de trahir son frère. Abraham va apprendre à se remettre à celui qui appelle à la vie et à lâcher tout ce qui le retient loin de cette vie. Car ce Seigneur est le Seigneur des vivants et non pas des morts. Ce Seigneur appelle encore aujourd'hui à la vie, pas d'abord les morts, mais d'abord et surtout les vivants, qui sont parfois comme morts, écrasés par la culpabilité générée par le décès, emmurés dans un deuil impossible, incapables de revivre sans avoir l'impression de trahir. Alors, que faire avec les chrysanthèmes ? Peut-être que ces fleurs peuvent devenir un symbole qui invite à chercher du côté de la vie, à discerner ce qui est et reste vivant et vivifiant dans une relation aujourd'hui disparue, et à enterrer définitivement tout ce qui n'est pas vivifiant en le confiant à un tiers.
Ainsi s'achève ce service protestant. Nous étions aujourd'hui avec Katharina Schechel, pasteur de l'Église protestante unie de France et responsable du service de formation Théovie. Merci à Luc-Jean Reynaud, à Philippe Bredin pour la réalisation et la prise de son de ce service protestant à redécouvrir sur franceculture.fr ou protestant.org. Restez à l'écoute de France Culture pour la suite des programmes. Je vous retrouve dimanche. Très bonne journée à tous.